Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est Jésus-Christ qui a chassé le démon de notre âme. Mais celui-ci cherche à revenir et il trouve en nous des faiblesses, des complicités, qu'on appelle les blessures, qui sont la suite du péché originel, qui existe dans chacun d'entre nous, même si nous sommes guéris par le baptême, par la grâce, il reste ces mauvaises tendances. Et elles sont plus dangereuses pour nous que le démon lui-même. Je crois vous l'avoir déjà dit. Car le démon ne peut pas entrer sans que nous ouvrions la porte de notre âme. Dieu qui nous a créés sans nous n'a pas voulu nous sauver sans nous. C'est-à-dire que Dieu qui aurait très bien pu vouloir nous remettre dans l'état de justice originelle a voulu au contraire que nous nous sanctifions dans la lutte, et après le baptême, bien qu'il nous ait donné la grâce avec abondance, il n'a pas éteint complètement le foyer de péché qui est en nous. Quelles sont les quatre blessures contre lesquelles nous avons à lutter? Tout d'abord, la blessure de l'intelligence. Ne croyez pas, mes bien chers frères, que cette considération soit de l'intellectualisme ou de la théorie ou de l'abstraction. L'intelligence a des conséquences bien réelles et bien concrètes. Je vous ai dit que l'homme avait été créé pour la contemplation des merveilles de Dieu d'abord, et des merveilles de Dieu. Cette contemplation se fait nécessairement par une faculté, car l'homme ne peut agir que par ses facultés, et la faculté de contemplation de Dieu, c'est l'intelligence. L'intelligence qui, ensuite, parce qu'elle nous a fait entrer dans le mystère de Dieu, nous fait entrer dans la connaissance de toutes les œuvres de Dieu. Eh bien, cette faculté, l'intelligence, est blessée. Elle est blessée d'une part par l'erreur, elle peut se tromper, mais surtout par une pente inverse à la pente que Dieu a voulu pour lui, pour elle, une pente vers la négligence des choses de Dieu, la paresse à contempler les choses de Dieu et une certaine gourmandise à contempler, au contraire, les choses d'ici-bas. Cette blessure de l'intelligence se trouve à un point très élevé dans le libéralisme. Le libéral est un homme intelligent qui connaît la vérité, mais qui veut en même temps plaire au monde et qui, tous les matins, s'administre une dose d'anesthésiant intellectuel. Soit qu'il achète le Figaro, encore pire le Figaro Magazine, ou bien même qu'il achète Valeurs Actuelles, tout cela, ce sont des anesthésiants intellectuels qui fait que le libéral, tout en connaissant la vérité, n'est plus enthousiasmé par elle, n'est plus guidé par elle, parce que il contemple au contraire la place, la réputation qu'il va pouvoir garder ou obtenir dans le monde. Ce libéralisme, c'est le gros problème de Monseigneur Felet, qui néglige la doctrine pour faire un accord pratique avec Rome. Il ne contredira pas la doctrine, bien sûr, il est disciple de Monseigneur Lefebvre, mais il la met de côté, et en cela, il n'est plus disciple. C'est du libéralisme. la mettre de côté, arriver à vivre avec la doctrine, mais non plus de la doctrine, en la laissant de côté et en sorte qu'elle ne dirige plus la vie. Ne croyons pas, et d'ailleurs ce libéralisme est également ce qui explique la crise dans l'Église, Paul VI, au moins Paul VI, les autres étant certainement plus atteints. Ne croyons pas que cette blessure ne concerne que les autres et les libéraux. Nous sommes nous-mêmes bien atteints par cette blessure. Nous sommes influencés par toute la fausse contemplation que le monde cherche à, dans lequel le monde cherche à nous mettre, avec tout l'audiovisuel, toutes les images qui cherchent à captiver notre esprit pour qu'il cesse de contempler Dieu. Le remède à cela, je vous l'ai dit, c'est l'oraison, la contemplation. Je n'y reviens pas puisque j'en ai parlé dimanche dernier, laquelle se nourrit par la lecture. La lecture de l'Évangile. Ne lisez pas la Bible, ou bien alors prenez don de Montléon, qui est une bonne manière d'entrer dans la Bible. Mais ne lisez pas la Bible directement sans avoir un bon guide, parce que vous allez vous y perdre. Par contre, l'Évangile, là, il n'y a pas de problème, surtout si vous prenez la vie de Jésus par le Père Berthe, que j'ai mis en vente à ma librairie sur le site. Vous pouvez lire également tous les livres spirituels, les vies de saints, enfin tout ce qui nous fait voir la réalité de Dieu. Enfin, tous les livres qui nous parlent de la lutte de Satan contre le monde, que ce soit les livres sur la révolution, sur la crise, tous ces livres qui nous montrent et qui nous font comprendre quel est l'enjeu intellectuel. La deuxième blessure en notre âme est la blessure de la volonté, qu'on appelle la blessure de la malice. La volonté est faite pour adhérer au bien que l'intelligence lui montre, car c'est évidemment l'intelligence qui le lui montre, et la volonté adhère à ce bien. Remarquez que la volonté a également une influence sur l'intelligence, puisque c'est elle qui commande à l'intelligence de contempler ceci plutôt que cela. Notre volonté est blessée par la malice. La malice, c'est d'abord un égoïsme, c'est surtout un amour des choses d'en bas. Le remède, saint Augustin nous dit « ton âme à Dieu et ton corps à ton âme ». C'est-à-dire que si l'âme est soumise à Dieu, le corps sera facilement soumis à l'âme, ainsi la volonté sera dans l'ordre et il n'y aura plus de désordre en nous. Pour forger la volonté, c'est l'amour de Dieu, les œuvres qui nous mettent dans l'amour de Dieu. Ces œuvres sont les œuvres de charité, l'amour de Dieu personnellement, mais également les œuvres de miséricorde qui nous font aimer Dieu au point de vouloir le faire aimer. Vous remarquerez que la première œuvre de miséricorde est d'enseigner la vérité, car il en va du prochain comme de nous-mêmes. La première blessure à guérir est celle de l'ignorance, donc de lui donner la vérité et surtout la vérité sur Dieu. Mais il y a les autres œuvres de miséricorde qui vont à la fois développer notre volonté, la nourrir de la charité et étendre notre amour de Dieu autour de nous. La troisième blessure de notre âme, c'est la faiblesse dans la vertu de force. Vous remarquerez que la vertu de force vient avant la vertu de concupiscence, de la vertu de tempérance, pardon. La blessure de la force, c'est la faiblesse. La force est importante, c'est elle qui nous permet de prendre à bras-le-corps les difficultés de la vie, l'intelligence avec la foi, la volonté avec la charité nous donne l'enthousiasme, Encore faut-il prendre les choses à bras-le-corps. Cette vertu de force se manifeste notamment à son plus haut degré dans le martyr. Ce qui s'oppose à la vertu de force, c'est tout ce qui va affaiblir notre âme. Et de ce côté-là, le monde moderne a bien agi également. Le monde moderne dirigé par Satan sait bien ce qu'il faut faire pour nous affaiblir. Comment allons-nous remédier à la faiblesse et développer en nous la force? Ne négligeons pas tous les moyens, profitons même de tous les moyens que Dieu nous donne continuellement, ici-bas, de bien faire ce que nous avons à faire. Le monde moderne nous fait papillonner, nous fait prendre les choses avec fantaisie, nous fait prendre nos travaux selon notre gré, le plaisir que nous y trouvons, et non pas selon notre devoir et ce que Dieu attend de nous. Alors, un bon moyen très concret, c'est de faire chaque matin le programme de la journée. Cela est plus facile que de faire un programme sur la semaine ou sur l'année, encore que ceci soit également nécessaire. Mais un programme de la journée, chaque matin, que Dieu attend-il de moi aujourd'hui? Que me demande-t-il? Dans quel ordre veut-il que je le fasse? De quelle manière veut-il que je l'accomplisse? Il me donne une journée, c'est pour lui, comment vais-je l'accomplir pour lui? Et le soir, on fait le bilan de manière à repartir d'un meilleur pied le lendemain matin. Toutes ces choses qui mettent de l'ordre, un adage dit l'ordre intérieur va avec l'ordre extérieur. Toutes ces choses sont importantes, non pas en elles-mêmes, l'amour de Dieu n'est pas là-dedans, mais elles sont importantes comme un soutien à l'amour de Dieu. Et s'il n'y a plus cela, alors l'amour de Dieu s'écroule. Dernière blessure de notre âme, c'est la blessure de la concupiscence dans la vertu de tempérance. Ce n'est pas la plus grave, je ne dis pas cela pour vous inviter à la négliger, mais pour vous rappeler qu'il ne servirait à rien de lutter contre la concupiscence si l'on n'avait pas d'abord mis de l'ordre, ou en même temps, disons, mis de l'ordre dans les autres blessures. Faisons bien attention de ne pas lutter contre la concupiscence de façon orgueilleuse. N'allons pas nous dire « je puis y arriver, c'est facile, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas », et puis on oublie de compter sur Dieu, et on est déçu du coup après cela, parce qu'on s'aperçoit qu'on est bien faible, et c'est évident, il n'y a que Dieu qui donne la force. Les moyens, vous les connaissez, le jeûne, principalement, qui nous est donné par l'Église. Rappelons-nous que c'est Dieu qui nous donne la force, je vous le disais, c'est lui qui nous donne la vertu, la tempérance et tout le reste, et faisons bien attention à aller vers lui de façon très, très humble et en même temps pleine d'amitié. Mon Jésus, vous m'avez beaucoup donné, j'ai été infidèle, je n'ai pas porté le fruit que je devais porter, je vous demande pardon et surtout je viens vous demander votre aide car il n'y a que vous qui puissiez me la donner. Nous la lui demandons non pas pour qu'il nous dispense de faire nos efforts, mais pour qu'il nous permette au contraire de faire des efforts. Nous voulons faire des efforts, nous ne les ferons qu'avec lui. Je termine. Non seulement nous sommes blessés, mais nos contemporains aussi, et la Très Sainte Vierge à Fatima a dit que nous pouvons faire beaucoup pour notre prochain, et notamment pour la conversion des pécheurs. Tout ce que nous faisons, tous les efforts que nous faisons, peuvent porter beaucoup de fruits si nous les apportons à notre Seigneur. Non pas que en eux-mêmes ils portent du fruit, mais notre Seigneur a décidé, de même qu'il a décidé de ne pas nous sauver sans nous, il a décidé de ne pas sauver les autres sans nous. Et il demande que nous lui apportions nos efforts il les complétera par la richesse de ses mérites infinis, par les mérites presque infinis de la Très Sainte Vierge, qui seront ajoutés à nos pauvres petits efforts, mais qui porteront ainsi beaucoup de fruits. Et donc, ce carême, cette lutte que nous faisons pour gagner la vertu, est importante non seulement pour nous, mais également tout autour de nous. Nous pouvons sauver beaucoup d'âmes, non pas nous tout seuls, bien entendu, mais Dieu sauvera beaucoup d'âmes si nous lui apportons nos efforts. Il faudrait que nous prenions l'habitude, comme la Sainte Vierge l'a demandé à Fatima, de toujours dire cette prière: Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Cette prière est pleine d'amour, amour de Jésus en tout premier, mais cet amour rejaillit sur les pécheurs, conversion des pécheurs, réparation des péchés, et cela nous donne beaucoup d'enthousiasme dans les efforts que nous avons à faire. La Sainte Vierge, c'est par la Sainte Vierge que Dieu est passé pour s'adresser à nous, parce que il veut que nous passions par elle pour lui demander les grâces dont nous avons besoin, que nous nous adressions à elle pour qu'elle nous aide à faire ce carême qui guérira les blessures de notre âme. Alors, bon courage, chers amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.